Cher Daniel, salut, salut à toute l'équipe. Voilà, en fait, quand j'écoute chaque jour le répondeur de la Bastille, si j'y suis, ça me fait penser à un truc qu'avait écrit Mirabeau, qui avait balancé ça. Il disait, l'être humain passe la moitié de sa vie à se forger des chaînes et l'autre moitié à se plaindre d'avoir à les porter. Et moi, en tant que sympathisant NR, je trouve cette phrase assez sublime. C'est que la contestation aujourd'hui se limite à réclamer des bourreaux un peu plus gentils. Voilà.
J'ai reçu par Internet une proposition de crédit qu'on appelle revolving, c'est-à-dire un crédit, comme tu le disais, permanent, un crédit duquel on ne se sort jamais, puisqu'on est toujours en amortissement d'intérêt et quasiment jamais en amortissement de capital. Et ce délicieux organisme qui s'appelle Cofidis, je cite le nom Cofidis hein, pour surtout ne pas se laisser piéger, mais il y en a d'autres, on les connaît tous, hein, on sait que les banquiers pratiquent également cela, c'est-à-dire que pour obtenir son prêt immobilier, on vous fait signer un crédit permanent et on vous fait du chantage pour signer ce crédit permanent. Ce crédit était à un taux de 19,79%. Je répète le chiffre. 19,79%. Mon message est simple, ne vous laissez pas faire, organisez s'il le faut des mini-groupes de pression, faites des sit-ins, je ne sais pas, faites quelque chose, mais ne signez jamais ce genre de piège, ne signez jamais ce genre de document, battez-vous et faites voir à tout le monde que vous savez qu'on vous prend pour des imbéciles et surtout ne signez jamais, ne signez jamais. C'est quasiment une supplication vis-à-vis de tous les gens qui pourraient se laisser berner par toutes les publicités qu'on peut trouver dans nos boîtes aux lettres aujourd'hui. Merci Daniel.
Pauvres et cons à la fois. Ils sont cons, sous, menteurs de combien ça coûte. Pernod dans le verre, avec deux glaçons, ils rêvent à des jours meilleurs devant la télévision. Vivre dans ces cas-là, c'est la sortie hebdomadaire au supermarché, superlatif, d'un marché pour faire rêver. Acheter ses courses à crédit avec Cofidis, Mediatis, CTLM, Sofaco, le miroir aux alouettes de la grande vie, des crédits à 9% sur mesure pour leurs envies. Payer 5, 6 fois son frigo, son caddie, merci les créditeurs de belle vie. Ces personnes n'ont pas d'argent. On leur propose d'en acheter, mais plus cher. Du travail, elles n'en ont pas. On leur propose de se vendre, mais moins cher. Société solidaire, humaniste, universaliste, démocratie de marché qui suce jusqu'à la moelle les pauvres solitaires. L'État n'est plus garant des excès des rapaces de la libéralisation. Il faut prendre l'argent là où il est, chez les pauvres, bien entendu, leur mettre la corde autour du cou, les conduire sur l'échafaud et attendre. Attendre qu'ils se jettent en avant, c'est moins de RMI à payer. Merci Jean-Pierre, François, Jean-Louis et les autres. Disciples d'Ernest, vous cultivez à merveille avec le pesticide MEDEF, éradicateur de social, le champ de la misère du monde. Jusqu'à quand les braves gens vont se taire? Longtemps, très longtemps. La honte leur ferme la bouche, ils ne crieront jamais leur haine. Mourront d'un cancer du poumon, d'une cirrhose devant la télévision. Quand ils auront appris à ne pas se jeter en avant, il sera déjà trop tard. Benoît, Chevilly-Larue.
Voilà, alors merci pour vos messages suite à l'émission d'hier, le reportage de Claire Auter sur les surendettés. On va retrouver vos messages, mais là on vient d'apprendre, vous l'avez entendu comme nous à 17h, la nouvelle de la remise en liberté de Cesare Battisti. Ça se passe à Paris, ça se passe à la cour d'appel de Paris, où on va essayer de joindre Francesco Giorgini. Francesco,
allô?
Ouais, tu es là?
Oui, je suis là.
Alors, comment ça se passe?
Vous entendez peut-être sur le fond, là, on est en train de chanter Adieu Lugano Bella, une vieille chanson anarchiste des anarchistes qui étaient chassés de la Suisse au début du siècle. Et on chante, évidemment, par Yes, vu que Cesare Battisti, comme vous venez de le dire, a obtenu sa liberté provisoire, chose qui fait qu'il est assez encourageant, même si encore évidemment rien n'est joué, pour le fond du dossier, qui est donc la demande d'extradition du gouvernement Berlusconi envers le ministre Perben, envers le gouvernement Raffarin, et qui sera statué, sera décidé par cette même cour le 7 avril. Mais c'est évident que le fait que la liberté provisoire soit été concédée, soit été donnée, est un signe encourageant, les avocats l'ont répété, et ça confirme le fait que sous le fond du dossier judiciaire, rien n'a changé, que donc l'avis défavorable à l'extradition, le double avis défavorable à l'extradition qui date de 1991, reste tout à fait fondé et tout à fait comme base de droit pour juger de la situation de Cesare Battisti. Aujourd'hui, évidemment, c'est aussi un bon signe pour tous les autres réfugiés qui sont, on l'a dit souvent dans ton émission, une centaine à peu près, et qui peuvent non pas encore tirer un soupir de soulagement, mais en tout cas commencer à voir les choses d'une façon un peu moins sombre. Alors pour ceux qui ont de l'ambiance ici, bon, maintenant on est tous, on chante un peu, mais un peu on écoute les nouvelles des avocats. Il y avait depuis 14 heures aujourd'hui à peu près 200-250 personnes qui se sont un peu changées, un peu reliées, encadrées par un cordon de CRS, inévitable cordon de CRS, assez discret mais assez entêté à ce sujet. Une toute petite anecdote: pour passer de la rue de Lutèce au boulevard du palais, qui est donc en face du tribunal, pour passer le cordon de CRS, il fallait enlever son autocollant avec écrit Cesare libéré, Cesare Battisti. Et on pouvait passer en le mettant dans sa poche, on pouvait passer. Alors, chose qui est en soi complètement ridicule, mais qui est aussi d'une violence quelque part inouïe. Ça me rappelle les manifs contre la réforme des retraites, quand pour sortir des manifs, il fallait enlever les badges syndicales.
Dis-moi, voilà, Francesco, quelle portée, quel retentissement l'arrestation de Cesare Battisti a eu en Italie, selon toi?
Paradoxalement, la mobilisation a été beaucoup plus forte en France qu'en Italie. Et d'ailleurs, même les comités qui sont constitués en Italie l'ont remarqué et quelque part regardent la France comme un modèle de ce point de vue. Vous entendez peut-être les applaudissements pour la fin de la chanson. Et quelque part, donc, ça a été entre guillemets décevant. Mais comment dire, l'histoire est beaucoup plus compliquée pour l'Italie. La gauche réformiste a une mauvaise conscience très très enracinée par rapport aux années 70. L'extrême gauche quelque part aussi, c'est-à-dire que elle est moins paroissiale peut-être que l'extrême gauche française, mais là aussi il y a au-delà d'une solidarité de façade, il y a des distinguos faits bien souvent. Donc tout ça a fait que il y a une certaine difficulté à se mobiliser en toute sérénité, on va dire. Chose qui n'a pas été le cas en France, parce que la France a moins de choses à régler avec cette période-là, et parce que aussi c'était beaucoup plus clair l'enjeu en France, c'est-à-dire c'était la parole donnée par un président représentant des citoyens et qui était trahi, et c'était aussi le jugement sur une affinité de plus en plus marquée entre le gouvernement français d'une droite, pour ainsi dire, plus sobre, et qui se retrouve de plus en plus en connivence avec la droite italienne, que tout le monde décrit comme excessivement populiste et excessivement désinvolte.
On va en avoir encore la preuve aujourd'hui. Francesco, est-ce que tu sais si Cesare Battisti va être libéré physiquement quand? Tu sais, maintenant, demain
Alors, on n'a pas d'horaire précis, mais disons que la procédure prévoit qui rentre à la santé pour exploiter les formalités de libération et pour ramasser aussi ses affaires. Et normalement, on m'a expliqué ici que les libérations se font plutôt tard dans le soir, voire la nuit, pour éviter des comités d'accueil, on va dire, et que donc est fort probable que Cesare Battisti soit libéré ce soir tard ou cette nuit.
Ok, Francesco, à bientôt, merci.
Excusez-moi, je t'entends très mal, Daniel.
Je te remercie, à bientôt.
Bon travail, bonne continuation. Là, voilà. Ici, on fête.
Oh, fêtez bien. D'autres messages sur le répondeur de là-bas, si j'y suis, 0156 40 37 37.
Bonjour, Catherine. Bon, j'étais particulièrement intéressée par l'émission sur le surendettement hier. Des choses très intéressantes, surtout par le juge, le magistrat qui est intervenu. Par contre, la personne de l'association, je me rappelle plus, Ami, Allo Ami, bon, pas mal dans un premier temps, mais alors complètement à côté de la plaque à la fin de l'émission, quand il disait que la loi Borloo a porté beaucoup. La loi Borloo, à mon avis, on régresse. La loi Neyers, complétée par la loi Aubry, permettait par exemple déjà l'effacement total des dettes sans qu'il y ait résiliation du patrimoine. Ça s'est passé, les débiteurs pourront l'affirmer. Et là, on va devoir faire vendre tout ce qu'ont les personnes, tous les biens qu'ont les personnes. Bon, peut-être pour une faillite personnelle, certes, mais les personnes seront fichées pendant 10 ans. Alors, je vois pas l'avancée. D'autant plus que moi je trouve un petit peu aussi bizarre que la loi soit parue au JO. Et il y a 15 jours, on nous rabattait les oreilles sur les chiffres, les augmentations des dépôts de dossiers, du surendettement. La loi paraît ici, on n'en parle plus du tout. Alors est-ce que c'est encore un effet d'annonce? On va peut-être nous l'annoncer entre les deux tours. Voilà, c'est pas mal. Je voudrais aussi dire que comment vont faire les pauvres gens surendettés, parce qu'il y a vraiment des pauvres gens qui sont dans la mouise, quand on sait que une centaine de comptoirs de la Banque de France, qui donc gère les secrétariats du surendettement, vont fermer là à partir du mois de septembre. Donc ces gens qui sont déjà défavorisés, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller où? Ils vont se déplacer? Enfin voilà.
Bonjour Daniel, c'est Nadine, je suis bénévole au Secours Populaire. J'ai entendu l'émission aujourd'hui sur le surendettement et c'est vrai que je voulais témoigner, ça m'a vraiment ouvert les yeux. Je ne m'étais pas rendu compte à quel point la société de consommation et les organismes financiers poussaient les gens à acheter pour faire fonctionner la machine. Donc je comprends bien là, merci. Au revoir.
Et pourtant, c'était pas facile, hein, ce sujet du surendettement, les lois, l'arrière-pensée dans ces lois, etc. Mais vous avez été attentif et c'est un sujet qui vous a passionné. En tout cas, si on en juge par les messages que vous avez laissés sur le répondeur de là-bas, si j'y suis. Je vais revenir un petit peu sur Cesare Battisti parce que bon, voilà, il vient d'être remis en liberté provisoire. Il faut peut-être apporter des précisions sur cet écrivain. C'est un écrivain italien qui a donc été arrêté le 10 février à Paris et libéré aujourd'hui même, liberté provisoire. Hein. Il faut rappeler que Cesare Battisti est un militant activiste, il était un militant activiste dans les années 70 en Italie, il a fui son pays en 1980, donc c'est des affaires qui remontent à plus de 25 ans, il a été condamné en 1988 par contumace à la prison à vie, sur la base de déclarations de repenti, sans preuve définitive, sans possibilité de recours, à une époque de loi d'exception où l'Italie était sous loi d'exception. Donc il y a quelque chose de discutable, au moins dans ses jugements. Alors Battisti vit en France depuis et il bénéficie, c'est ça qui est important à nouveau à préciser, comme d'autres ex-militants italiens, d'autres réfugiés italiens dont Francesco parlait, de la jurisprudence Mitterrand qui prévoyait en 1985 que ces militants ne seront pas extradés s'ils auront pu avec le terrorisme et se sont intégrés à la société française qui est depuis l'époque, depuis 25 ans, le cas de Cesare Battisti. Il semble que c'est intéressant de donner ces précisions. Et alors, cette histoire nous fournit une occasion formidable de refaire un petit tour chez notre voisin et néanmoins ami, Silvio Berlusconi. Ben oui, on est dans une période électorale, on voit nos candidats se démener, vous avez vu Monsieur Bérou, le mal qu'il se donne, et on se demande si ces gens-là ont bien tout compris sur la vraie façon moderne de réussir en politique. Parce que pour Silvio Berlusconi, qui a une place enviable pour ceux qui sont amateurs de pouvoir et de politique, il a une place enviable, eh bien, pour lui, la politique, c'est assez simple, ça ressemble tout à fait à un paquet de nouilles. Pour Silvio Berlusconi, si le monde est une marchandise, eh bien, la politique, c'est de la lessive. Et on va vous en apporter la preuve dans ce retour, non pas en compagnie de Berlusconi, mais en compagnie de ceux qui ont fait Berlusconi. Et c'est quand même important, parce que c'est ce même Berlusconi et son gouvernement qui font pression sur notre gouvernement à nous pour renvoyer Battisti là-bas. Mais voyez, pour l'instant, en tous les cas, la Cour d'appel a donné une liberté provisoire à Battisti. D'autres messages, il y avait d'autres messages sur le répondeur de la Bastille Fillon, on les entend et après on part. Cécile Fillon.
Bonjour Daniel, voilà, c'est pour l'émission d'hier. Et vous disiez qu'à un moment il y a 1 500 000 endettés, mais bientôt on pourra même plus payer ni nos cotisations, c'est-à-dire nos mutuelles, nos loyers, et à ce moment-là on nous considérera peut-être aussi comme des surendettés, parce qu'avec la précarité qu'il y a aujourd'hui, c'est plus possible. Alors c'est Yamina à Saint-Pierre.
Auditeur de France Inter et de Daniel Mermet, bonjour. Vous aimez les dessins de presse et de bandes dessinées. Vous voulez soutenir le DAL, droit au logement. Eh bien, 2 en 1, c'est plus malin. Venez nombreux le 6 mars à la vente aux enchères de dessins originaux de presse et de bandes dessinées. Ce sera le 6 mars au théâtre de la Main d'Or à 14h. 15 passages de la Main d'Or dans le 11e. Ils sont venus, ils sont tous là, les dessinateurs, Villemain, Charbe, Fmur, Calme, Johan, etc. Et si vous voulez plus de renseignements, vous pouvez appeler le DAL, droit au logement, au 01 40 27 92 98. On vous embrasse et à bientôt.
Oui, bonjour, c'est Nicole du Morbihan. Il y a quelqu'un hier soir qui a dit il faut aller voter. Je pense que c'est le gros problème de tous ceux qui ont des grands besoins à tout niveau, de grands besoins sociaux, c'est que le gouvernement sait que ces gens-là ne vont pas voter. C'est ceux qui auraient le plus besoin de manifester leur opinion qui n'iront pas voter, qui ne sont pas inscrits, qui s'en foutent, que ça n'intéresse pas. Et c'est ceux-là dont on a le plus besoin des voix, et de ne pas se tromper non plus de voix. Hein. Et c'est ça le gros problème. Je pense qu'il faut insister sur ce sujet-là. Il faut absolument aller voter. Il faut absolument aller voter. Et il faut également être militant pour le vote blanc, parce que si vous n'êtes pas intéressé par toutes ces bandes de pingzizi, eh bien, il faut voter blanc. Pour l'instant, on ne peut pas, mais il faut être militant pour le vote blanc. Parce que si le vote blanc était un vote autorisé, ils prendraient tous des sacrés claques, mais au moins, on n'aurait pas voté pour le Front National ou pour cette droite pourrie. Voilà. Et que chacun soit responsable et que chacun sache que sa voix est importante quand on est des petits, quand on est des sans-abri, quand on est des sans-abri, et là, ils doivent pas pouvoir voter ceux-là. Mais quand on est des gens qui sont dans le besoin, dans le souci, dans le chômage, dans la précarité, aller voter, c'est dire non à ce gouvernement, c'était absolument le contrecarré. Ils savent très bien que ces gens-là vont pas voter, donc ils n'ont rien à foutre de tout ce qu'on peut dire et des manifestations et compagnie. Voilà, allez, bon courage à chacun et droit dans ses bottes pour aller voter.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, avec Francesco Giorgini et Silvio Berlusconi. Forza Italia.
Flight number 2, arriving from New York.
La folie que nous sommes en train de vivre, c'est une véritable folie.
L'unico sistema di cui oggi il mondo dispone per aumentare il benessere è il sistema del libero mercato. L'unico sistema di cui oggi il mondo dispone per aumentare il benessere è il sistema del libero mercato.
L'unico sistema. L'unico sistema dont le monde dispose aujourd'hui pour augmenter le bien-être, c'est le système du libre échange.
Berlusconi è qualsiasi cosa uno voglia.
Berlusconi può essere tutto ce che vuoi.
Berlusconi è Pirandello.
Berlusconi è Pirandello.
Berlusconi è quello che tu vuoi che tu... Che...
Berlusconi è capace d'être ce che tu vuoi qu'il soit.
L'affirmation pure et simple, dégagée de tout raisonnement et de toute preuve, constitue un sûr moyen de faire pénétrer une idée dans l'esprit des foules. Ainsi parlait Gustave Le Bon. Qui était Gustave Le Bon ? Eh bien, c'était un Français, ami français, un médecin, un sociologue, un touche-à-tout, qui en 1895 écrivit « Psychologie des masses ». Livre peut-être oublié, mais qui eut une très grande importance, de très nombreuses traductions. Il fut lu et comment par des gens aussi divers que Freud, Einstein et un certain Adolf Hitler, qui s'est beaucoup intéressé à ce que disait ce Gustave Le Bon sur les foules et leurs rêves, les foules qui pensent par image, les foules où, dans lesquelles l'individu régresse, la foule qui est toujours extrémiste, la foule qui réclame un maître, la foule qui est malléable, la foule qui est religieuse. Jean-Luc Porquet, il y a quelques années, dans un livre remarquable qui s'appelait Le Faux Parler, avait longuement étudié les mécanismes de la démagogie. Alfred Jarry, pour qualifier ce que nous essayons de dire, avait inventé le mot décervelage, la machine à décerveler. Dans Ubu, on voit fonctionner cette machine à décerveler. Aujourd'hui, cette machine s'appelle la com, tout simplement. Tous les partis, chez nous, ont recours à ce moyen de manipulation des esprits qu'est la communication. Et les médias, eh bien, on l'a vu au cours de cette campagne, comme des précédentes d'ailleurs, mais peut-être un peu plus au cours de cette campagne, ont consacré de longs reportages, de longues analyses sur la coiffure de tel candidat, sur ses costumes. Tout d'un coup, le voici plus élégant. Quelle est la marque? Quelle est la taille? On s'est intéressé à la couleur du fond, du décor, bordeaux ou bleu, ou que sais-je encore, la hauteur du pupitre, le prompteur, l'éclairage, la scénographie. On a longuement interrogé les intentions de Jacques Séguéla, dont je parlais. On a interprété les intentions de Claude Chirac, la fille du président réélu. Il y a dans tout cela une atteinte pure et simple et radicale à la démocratie, à l'esprit même de la démocratie. Je parle de décervelage, mais la com s'adresse et met en jeu nos pulsions les plus immédiates, nos idées réflexes, nous voit comme autant de souris de laboratoire ou de chiens de Pavlov, tout juste bons à baver ou à ne pas baver. Nous sommes cernés chaque jour, à chaque instant, nous sommes en but à ces entreprises de manipulation, et il y a détournement de sens par le détournement de nos sens, et on connaît ces agressions auxquelles nous opposons comme nous pouvons nos facultés d'occulter et diverses résistances qui parfois s'affaiblissent. Mais la propagande est rusée pour s'infiltrer, pour s'insinuer dans les reins et dans les cœurs, et pour finalement fabriquer l'opinion. L'opinion, parce que le marketing politique n'est en rien, là on va le voir de façon éclatante, n'est en rien différent du marketing en général. La politique est une marchandise comme une autre, et nous allons la vendre au plus grand nombre. L'électeur devient un consommateur, et la démocratie se trouve vidée de sa substance. L'électeur consommateur réduit à ses pulsions n'a plus besoin de son cerveau. La moelle épinière suffit. En anglais, on dit no brain, no pain. Pas de cerveau, pas de douleur. Quand je dis no pain, je ne dis pas Le Pen. C'est tous les partis qui ont recours à ce procédé. En Italie, Silvio Berlusconi se faisait élire en poussant le système de la com jusqu'au bout, systématiquement, à fond et sans état d'âme aucun. Ça a été le succès que vous savez, et on va rencontrer aujourd'hui celui qui est l'auteur de ce succès en matière de com, un certain Luigi Crespi.
Rima donna, 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 rima
folie que nous sommes en train de vivre. C'est une véritable folie.
Dario Fo, la voix de ce merveilleux bonhomme qu'est Dario Fo, qui est un bouffon, prix Nobel d'ailleurs, de littérature. Mais de quelle littérature? Il n'a jamais rien écrit, mais par contre il a parlé. Cet homme parle, il parle avec une conscience politique et une connaissance de l'actualité politique de son pays sans égal. Il fait partie de ceux qui, en Italie, comme ici, luttent contre, essayent de réveiller les enfants de l'apathie. Mais on va passer un peu de temps dans une agence, une grande agence de com, qui s'appelle Data Media, qui est à Milan, qui est dirigée par un certain Luigi Crespi. Pourquoi ? Pour essayer de comprendre comment Berlusconi est arrivé au pouvoir en Italie. Le souriant Berlusconi, toujours bien coiffé, avec ses dents impeccablement blanches, il nous fait sourire, ce personnage. Il nous fait sourire, sauf si on se souvient que la loge P2, vous savez, cette loge maçonnique dont Berlusconi faisait partie, il en était membre, eh bien cette loge avait pour objectif la prise non démocratique du pouvoir en utilisant les moyens de la communication de masse. Hein. Explicitement, c'était tout à fait explicite. Aujourd'hui, Silvio Berlusconi se trouve à la tête, étant président du Conseil de l'Italie, non seulement de ses chaînes de télévision à lui, mais aussi des chaînes de télévision du service public. On peut donc considérer que 90% de la télé hertzienne italienne et 70% du marché de la publicité sont entre les mains de cet homme. Je vous souviens, je vous rappelle qu'il est l'homme évidemment le plus riche d'Italie, la 14e fortune du monde, ce qui fait évidemment la fierté de partie des Italiens, en tous les cas de ceux qui votent pour lui, et son patrimoine est estimé à plus de 15 milliards d'euros. 15 milliards d'euros. Alors, parmi ces euros, ben, il en a distribué un petit peu à Luigi Crespi, une quarantaine d'années, qui a fondé donc cette boîte Data Media et qui va nous expliquer vraiment à cœur ouvert, tout à fait tranquillement, comment est-ce qu'on vend un personnage comme Berlusconi. Je dis bien vendre parce que ça se vend exactement, vous allez voir, comme de la lessive ou comme un paquet de Pâques. D'ailleurs, le sigle Forza Italia lui-même n'est pas sans rappeler en rouge et vert, de cette façon, une célèbre marque de pâte. Alors comment on fait? Comment on nous manipule? Comment on s'y prend? Il s'agit, encore une fois, de politique. Il s'agit bel et bien de politique, c'est-à-dire du sort de tout un peuple qui n'est pas un peuple d'imbéciles. Les Italiens sont des gens particulièrement cultivés, avec une histoire longue, superbe, que nous aimons et que nous admirons de ce côté-ci des Alpes, et qui sont des gens qui ont œuvré. Enfin, c'est le pays de Fellini, c'est le pays de Pasolini, qui faut-il citer, Dante, qui vous voulez, et qui sont qui est un des relais de l'histoire merveilleuse et formidable de la démocratie, qui suppose des citoyens instruits en permanence. Eh bien, quand on parle de fascisme néolibéral, on se dit « Ah, ça y est, vous exagérez ». Il y a quelque chose quand même là, dans la démarche de quelqu'un comme Berlusconi et de ces boîtes de com qui vont à l'encontre, qui sont une négation de la démocratie. Entrons dans ce petit cinéma.
Alors racontez-moi où on est là exactement. On est dans une petite salle, ça fait comme une petite salle de cinéma. Des petits sièges bleus, des rideaux bien tirés, un écran blanc, l'endroit pour un présentateur.
Et puis il y a des boîtiers, toi.
Voilà. Et chaque siège est pourvu d'un boîtier. Alors il y a plus, normal, moins et moins, moins.
Sì. C'est ça. Questo sarebbe il tasto praticamente del non ha opinione.
Celui de milieu, X, c'est j'ai pas d'opinion.
Sans opinion. Mm-hmm. Voilà. Alors on est en train de comprendre qu'il s'agit d'une salle de test. Comment vous appelez?
È una sala di test MPM.
C'est une salle de test MPM.
Moment
MPM.
Per momento.
Moment par moment.
momento per momento.
A video vengono proiettate delle immagini.
Sulla video on projette des images.
E il pubblico presente esprime il proprio giudizio su quello che vede e quello che sente.
Et le public présent exprime son jugement sur ce qu'il voit et ce qu'il entend.
D'accord. Et alors quel est le public que vous mettez dans la salle?
Dipende, a seconda di che cosa bisogna testare.
Ça dépend de qu'est-ce qu'on va tester.
Alors là par exemple pour Berlusconi.
Per Berlusconi noi avevamo tre pubblici differenti.
Tre pubblici differenti.
Un pubblico di centrodestra.
Un pubblico di centro-gauche.
Una parte di centro-sinistra.
Un pubblico di centro-droite.
E una grossa parte di indecisi.
E soprattutto un gros morceau d'indécis.
Perché i due candidati étaient presque au même niveau. E fallait influencer les indécis.
No, più che influenzarli bisognava capire che cosa volevano gli indecisi.
Soprattutto fare comprendere qu'est-ce qu'ils voulaient les indécis.
E voilà. Soprattutto perché non avrebbero votato per un candidato o per l'altro.
E soprattutto perché ils auraient pas voté pour un candidat ou pour l'autre.
E quindi scoprire quali potevano essere i punti di forza di un candidato e dell'altro.
Et donc découvrir quels étaient les points de force d'un candidat et de l'autre.
D'accord. Mais vous en êtes servi pour la campagne de Berlusconi au mois de mai 2001, mais vous vous en servez pour n'importe quel produit, ça peut être pour lancer n'importe quel produit.
Ultimamente le utilizziamo soprattutto per la pubblicità, testare le campagne pubblicitarie.
Dernièrement, on l'utilise surtout pour tester les campagnes publicitaires.
I programmi televisivi.
Pour tester les programmes télé.
I personaggi televisivi.
Les personnages télé.
E anche eventualmente, come si può dire, i video musicali di artisti.
E le video musico des artistes.
Il 90% in questo momento del nostro business è questo.
Il 90% in questo momento è il test dei video musicali per queste sale.
E pubblicità.
E quindi c'è esattamente per lanciare Berlusconi o per lanciare un candidato, c'è esattamente le stesse metodi che per lanciare un prodotto pubblicitario o un clip. Pour un disque.
Il metodo è lo stesso.
La metodo è la même.
È ovvio che il campione è differente.
Mais le groupe est différent.
Ovviamente le suddivisioni campionarie, i target sono differenti.
Et les cibles aussi sont différentes. Et ainsi de suite.
C'est ça, on trouve le public adapté au produit.
Exact.
Et certo.
Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé déjà comme règle en matière de communication électorale? Qu'est-ce qui marche à tous les coups et qu'est-ce qui marche jamais?
Lo deve chiedere a Crespi, non a me.
C'est le grand chef.
Ça, c'est le boss.
Ça, c'est le boss.
Mais
c'est
le patron.
On va monter. Adesso
andiamo dal dottor Crespi.
Ma non, va chez le grand chef.
D'accord.
Cent 170 employés, 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, une bonne petite entreprise dans laquelle nous nous trouvons à Data Media, donc à Milan. Et vous avez compris qu'après avoir visité cette salle de test, moment par moment, eh bien nous allons rencontrer le directeur Luigi Crespi. C'est pas du tout le genre costard, cravate, hein, c'est plutôt l'ambiance pétard partout, hein, c'est vraiment sympa, moderne. Jeune, c'est la devise pourrait être parlons à leur cul, leur tête est malade. C'est à peu près ça le principe de la com. C'est l'intelligence est tout à fait superflue et je suis sûr qu'actuellement les gens, les collaborateurs de cette entreprise doivent se dire bah voilà le saucisson Jospin c'est moins bien vendu que la lessive Chirac. Qui sait ? Vous allez voir, c'est absolument les mêmes techniques. Écoutez voir.
Berlusconi è quello che tu vuoi che tu sia.
Berlusconi è capace di essere ce che tu vuoi che tu sia.
Alors, Luigi Crespi, vous dirigez donc cette entreprise de communication et de sondage aussi, hein?
Sì, una holding, una società che controlla un paio di istituti di ricerca italiano.
Notre holding controlla due istituti di sondaggio.
Un'agenzia di pubblicità.
Un'agence de pub.
È una specie di fabbrica della comunicazione.
C'est une espèce de fabrique de la com.
Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est la campagne Berlusconi. Comment avez-vous fait gagner Berlusconi?
Beh, diciamo che intanto non c'è mai uno che fa vincere un altro.
Il n'y a jamais un qui fait gagner un autre.
Intanto il primo motivo per cui Berlusconi ha vinto è perché i governi prima di lui avevano governato male.
La prima ragione per la quale Berlusconi ha vinto è che il governo avant de lui, il governo di centro-gauche, aveva mal governato.
Mais vous, en quoi est-ce que vous pensez que vous avez su pousser votre client, parce que c'est de ça dont il s'agit, à la victoire, vers la victoire?
Io non sono di Forza Italia, quindi sicuramente si tratta di un cliente.
Je suis pas de Forza Italia, donc on peut parler de client, effectivement.
Quindi, che poi dopo 4 anni, diciamo, è un cliente amico, però...
Après 4 ans de travail, c'est quand même un client copain, mais c'est un client quand même.
Io adoro le campagne elettorali, ma a lei non piace la politica.
Moi j'adore les campagnes électorales, par contre j'aime pas la politique.
Però non esiste nessuna manifestazione che io conosca della vita che sia così rapida, intensa e soprattutto che sia così verificabile.
Je connais aucune autre expérience de la vie qui soit si rapide, si intense et si vérifiable qu'une campagne électorale.
È come la metafora dello sport. Lo sport è vincente perché tu alla fine di 90 minuti hai vinto o perso, mentre la vita è sempre fatta di pareggi, di cose strane, di gente che dice che ha vinto. Mentre la campagna elettorale è breve, è intensa e alla fine vinci o perdi.
Le buon della campagna elettorale è che c'est pas come la vie où il y a des compromis, où il y a des situations avec du gris. Ça, là, c'est noir ou blanc, c'est bref, intense, et à la fin, soit tu gagnes, soit tu perds.
C'est pour ça que dans votre bureau, il y a deux posters, l'un qui représente une équipe de football américain, d'un côté, et de l'autre côté, une bataille très ordonnée, mais c'est une bataille.
Di cui oggi il mondo dispone per aumentare il benessere è il sistema del libero mercato.
L'unico sistema dont le monde dispose aujourd'hui pour augmenter le bien-être, c'est le système du libre-échange.
Voilà, ce qui est bon pour la General Motors est bon pour les États-Unis. C'est ce qu'on disait. Eh bien, aujourd'hui en Italie, on dit ce qui est bon pour Berlusconi est bon pour l'Italie. C'est tout simplement ça. Comment on en est arrivé là? Eh bien, voilà des explications, voilà des éclairages. Et pour tout ça, eh bien, il faut des maîtres. Il faut. Alors vous, c'est Pierre Bourdieu, c'est Cornelius Castoriadis, c'est Adorno, c'est Peggy, c'est Spinoza. C'est Anna Arendt. Eh bien, Luigi Crespi, lui, il a son maître aussi.
Il nostro maestro è stato Jacques Seguela.
Notre maître, c'était Jacques Seguela.
Et noi abbiamo preso proprio il décalogue di Jacques Seguela.
On a pris le décalogue de Jacques Seguela.
Il a un décalogue?
Un décalogue di Jacques Seguela, sì. E abbiamo mutuato questo décalogue. Che sostanzialmente cosa dice? Dice che gli elettori non votano per un programma, ma votano per una persona.
Allora, una delle prime regole è che gli elettori non votano pas per un programma, ma per una persona.
E Jacques ci ha insegnato a trasferire non dati, valori, ma a trasferire sentimenti.
Jacques nous a appris pas a trasmettere des données o des valeurs, ma a trasferire des sentiments e della forza.
Con questa campagna elettorale noi abbiamo voluto dire agli italiani qual era la visione di Berlusconi dell'Italia.
Con questa campagna elettorale on a voulu donner aux Italiens une vision, la visione di Berlusconi dell'Italia e un rêve, le rêve di Berlusconi per l'Italia.
Visto che lui poi è un imprenditore, il suo sogno l'ha messo da imprenditore su un contratto.
E più che è un entrepreneur, son rêve, lui l'ha trasformato in un contratto.
Su 5 punti dove appunto ha detto aumenterò le pensioni.
Avec 5 points, j'augmenterai les retraites.
Abbasserò le tasse.
Je baisserai les impôts.
Farò delle grandi opere.
Je ferai des grands travaux.
Le opere strutturali. E diminuirò la delinquenza.
Je ferai baisser la délinquance.
E aumenterò i posti di lavoro.
Et je vais augmenter l'occupation.
Ha scritto tutto questo in un contratto, lo ha firmato.
Il a signé tout ça sur un contrat, il a signé devant les Italiens.
Se io queste robe non le faccio, sì. Tra 4 anni me ne vado via.
E il a dit, si je fais pas tout ça, dans 4 ans je m'en vais.
E questo è molto rivoluzionario.
E ça c'est plutôt rivoluzionario.
C'est vous qui lui avez conseillé ces 5 points?
Beh, diciamo che noi questa cosa l'abbiamo mutuata da 2 esperienze. Una da Reagan, che fece la famosa campagna permanente.
Nous on a emprunté cette idée de deux choses. Une c'est Reagan qui faisait la campagne permanente.
Dove fece un patto con gli elettori.
Où il a fait un pacte avec les électeurs.
Era mutuato da Mitterrand, che fece proprio con Jacques Seguela un patto con gli elettori.
De Mitterrand aussi, che lui aussi, grâce à Seguela, avait fait un pacte avec les électeurs. La campagne de la force tranquille.
Quando mandò quella famosa lettera a tutti.
La famosa lettera au français.
Che fece vincere la campagna.
Chi lui ha fait gagner la campagna elettorale.
La campagna di un fort tranquille.
Nous on appelle ça la campagne de la force tranquille.
Berlusconi però non era un politico, ma era un imprenditore.
Berlusconi n'était pas un politique, mais un entrepreneur.
E gli imprenditori firmano i contratti.
E gli entrepreneurs signent des contrats, c'est leur boulot.
I contratti gli imprenditori devono rispettare.
E falliscono. E les entrepreneurs doivent respecter les contrats qu'ils signent, sinon ils font faillite.
I valori di Forza Italia, gli stessi valori fondanti di tutte le grandi democrazie occidentali. Ça, c'est les grandes valeurs.
La liberté.
Donc, nous, on croit dans la liberté. Dans la liberté d'expression, dans la liberté de culte, de tous les cultes, dans la liberté d'association. On croit dans la liberté d'entreprise, dans la liberté de marché, régulée par des normes certaines et claires et égales pour tout le monde. Mais la liberté n'est pas gracieusement concédée par l'État. Parce qu'elle vient avant l'État. On croit que l'État doit être au service des citoyens et non les citoyens au service de l'État.
Mmh.
Pour ça, concrètement, on croit dans l'individu et on considère que chacun doit avoir le droit de se réaliser soi-même, d'aspirer au bien-être et à la félicité, de construire avec ses propres mains son propre futur, de pouvoir éduquer ses enfants librement. Pour ça, on croit dans la famille. Et on croit aussi dans l'entreprise, et le grand valeur sociale de la création du travail, du bien-être et de la richesse. On croit dans les valeurs de notre tradition chrétienne, dans les valeurs irrénonçables de la vie, du bien commun, de la paix, de la solidarité, de la justice et de la tolérance envers tout, à commencer par ses adversaires. Et on croit surtout dans le respect et dans l'amour vers ceux qui sont plus faibles, avant tout les malades, les enfants, les personnes âgées et les exclus. Et en même temps, en tant que libéraux, on croit dans les effets positifs pour tout le monde, de la compétition et de la concurrence et du progrès qui ne peut pas être là s'il n'y a pas de liberté. Tiré du discours du président Silvio Berlusconi à Rome le 6 février 1994.
Faire croire que le néolibéralisme et le libre-échange n'est pas une idéologie, voilà ce que Silvio Berlusconi a réussi à faire croire aux Italiens, comme auparavant les Anglais, les Américains, la France, puis à peu près toute la planète. Il reste plus que les Italiens à douter encore un petit peu. Et maintenant, ils sont persuadés que c'est ça la seule there is no alternative. Ils sont tinaïsés à leur tour. Là, aujourd'hui, ce qu'on fait en intéressant à la com qui a conduit Berlusconi, Silvio Berlusconi au pouvoir, c'est un peu comme dans l'histoire, vous savez, du sage et du fou. Lorsque le sage montre la lune du doigt, eh bien le fou regarde le doigt au lieu de regarder la lune. Eh bien, nous on regarde le doigt. Ouais, on est comme le fou qui regarde le doigt, c'est-à-dire on regarde celui qui montre, non pas ce qui est montré, mais celui qui montre. Qui est celui qui montre? Comment ça se passe quand on nous montre quelque chose? Pourquoi on nous le montre? Quelle est cette main? Qui est le bras? Qui est la tête? Qui est au bout? Ben là, en l'occurrence, c'est provisoirement Luigi Crispi. Lui, il est chef de cette petite entreprise de communication, comme il y en a partout, comme il y en a dans tous les pays du monde ou presque aujourd'hui. Pas seulement, on le voit, pour nous vendre des lessives et tout ce que vous voudrez, mais pour nous vendre, eh bien, ceux qui vont diriger nos vies, nos sociétés, notre avenir, s'occuper de nos enfants, de tout, absolument tout. Alors, vous dites c'est un personnage qui gagne, hein, c'est un homme qui gagne. Est-ce que vous avez conseillé Berlusconi sur son look, sur son maquillage, sur son lifting? Sur ses vêtements, la couleur de sa cravate, la gestuelle.
Non, pas de parrucchiere.
Je ne sais pas quoi faire. Pour son aspect physique, Berlusconi n'écoute personne.
Ma non, perché lui è un uomo di spettacolo, un uomo che viene dal mondo dello spettacolo, della televisione, e per 20 anni si è occupato di queste cose, vuol dire, sono cose che conosce lui meglio di noi.
C'est un homme de spectacle, c'est un homme de télé, c'est un homme qui s'est occupé de ça pendant 20 ans, donc il les connaît même mieux que nous, ce genre de choses, donc c'est plutôt lui qui nous apprenait sur ce côté-là, que nous, qu'on n'avait rien à lui apporter.
Qu'est-ce qu'il vous a appris, par exemple?
Tantissimo. Ad esempio, ho imparato a guardare la televisione, gli spettacoli, gli spot, vedendo cose che altri non vedono.
J'ai appris à regarder la télé, les spectacles et aussi bien les spots publicitaires en voyant des choses que les autres n'arrivent pas à voir.
Lui, guardando la televisione, vede dettagli particolari come la posizione delle luci, la posizione del collo, il modo in cui le mani, la scenografia, vede dei dettagli che noi che non li vediamo. Io questo l'ho imparato e mi è stato molto utile poi nel mio lavoro pubblicitario.
Lui arriva a guardare i dettagli sulla posizione delle lumière, sulla posizione della tête des gens qui parlent, su come i bouge, des choses que nous on voit pas, e ça m'a été après très utile pour mon travail dans la publicité.
Il lavoro fatto con lui è un lavoro di scambio.
Il lavoro con lui è un lavoro di scambio.
Lui è molto creativo.
Lui è très creativo.
È molto propositivo. Ha avuto delle idee molto brillanti.
Il ha beaucoup de propositions. Il a avuto delle idee très brillantes.
Molto innovative. La nave.
Come per esempio di fare campagna con un navire. La nave,
lui alle elezioni regionali è partito con un transatlantico.
Alle elezioni regionali il è partito con un paquebot.
E ha fatto la campagna elettorale su questa nave, fermandosi porto per porto.
E il ha fatto la campagna elettorale su questo navire in solito porto per porto.
Io personalmente trovavo questa idea un po' kitsch.
J'ai trouvé cette idée un peu kitsch, un peu rococo,
un po' barocca, ed è stata invece una roba geniale.
Au contraire, c'était une idée géniale qui a marché de tonnerre, et j'ai dû admettre que j'avais mal jugé.
Sì.
Et oui, c'était un succès formidable que cette campagne en bateau. On va dire que, évidemment, Silvio Berlusconi a emmené les Italiens en bateau. Tout le monde s'est marré dans la presse italienne devant ce raffio, ce yacht. Enfin, ce raffio, c'était un yacht de luxe avec lequel il a parcouru les rives de la péninsule. Et ben, c'était un succès absolument formidable. Il s'est payé le luxe de dire « Nous attaquerons par le ciel, par la terre, par la mer, et nous gagnerons. » Et il a gagné.
Alors je suppose que dans cette campagne, en mai dernier, je suppose qu'évidemment les adversaires de Berlusconi, le centre-gauche, n'a pas manqué de faire état de sa situation très délicate avec la justice.
Quelle a été votre réplique ?
Beh, abbiamo risposto ad esempio con il fatto che credo che gli italiani legittimamente sospettino che quello che è accaduto sul tema della giustizia a Berlusconi sia legato alla sua discesa in campo.
On a répondu surtout en amplifiant, en nourrissant le soupçon que les Italiens avaient déjà, que les démêlés judiciaires de Berlusconi soient surtout en effet de sa descente dans l'arène politique.
Berlusconi, gli italiani pensano.
De Berlusconi, gli italiani pensano.
Che non sia un mafioso.
Che sia pas un mafioso.
E io l'ho conosciuto per 4 anni ad Arco, nel cuore della Brianza, e io non ho, ve lo garantisco, per quello che posso dire io, non ho lavorato 4 anni con un mafioso.
E moi, je l'ai connu pendant 4 ans dans sa villa à Arco, je l'ai côtoyé de très près, e je peux vous garantir, de mon point de vue, che j'ai pas travaillé pendant 4 ans avec un mafioso.
Però sono convinti che Berlusconi abbia evaso le tasse.
Ma sono convinto che non è un mafioso, ma sono convinto che l'hai evadé le impôts.
E abbia corrotto.
E che l'hai corrompu.
La politica.
La politica.
E lo hanno votato.
Mi l'hanno votato quand même.
Perché in Italia evadere le tasse.
Ne pas payer ses impôts.
Non è un reato.
Se pas considéré moralement, éthiquement, par les Italiens come un délit.
Non è un reato, perché è stato concepito fino a qualche anno fa come un atto di autodifesa.
Perché c'était conçu de pas payer ses impôts jusqu'à il y a peu come un acte d'autodéfense.
E la corruzione?
La corruzione è in un paese dove c'è stato Mani Pulite.
Dans un pays qui a vu l'enquête main propre.
Lei preferisce uno che si fa corrompere o uno che corrompe?
Vous préférez quelqu'un qui se fait corrompre ou quelqu'un qui corrompe?
Alors, comment, d'accord, ça c'est la façon dont vous défendez votre...
Qui a pagato, non che è stato pagato.
Lui, Berlusconi, c'est quelqu'un qui a payé, pas qui s'est fait payer.
Gli anni ha pagato per poter lavorare, facevamo così tutti. Ed è entrato in politica per smettere di pagare.
Et les Italiens se disent, il a payé pour pouvoir travailler, tout le monde faisait comme ça, et il est rentré en politique pour arrêter de devoir payer les politiques.
D'accord, questo però bisogna capirlo, perché se non capisci questo, probabilmente
ça,
non...
Ça, c'est les cas dans lesquels on peut comprendre pourquoi les Italiens, malgré l'idée qu'ils ont de Berlusconi, l'ont voté.
Qu'est-ce que c'était le kit du candidat, c'était quoi? Ça, c'est vous qui avez inventé ça, le kit du candidat?
No, io non c'entro col chi del candidato.
No, sono moi che l'ha inventato.
No, è stato il marketing di Forza Italia.
Il marketing di Forza Italia.
E visto che molti candidati.
Beaucoup de candidati.
Soprattutto all'inizio nel 94.
Soprattutto al debut in 94.
Erano candidati che venivano dalla società civile, che non avevano esperienza politica.
C'était des candidats qui venaient de la société civile, qui n'avaient pas d'expérience politique.
Berlusconi si è inventato un kit con un tutte kit. Le cose che servivano per fare politica.
Avec toutes les choses qui servaient pour faire de la politique.
La spilletta,
le badge,
il manifesto,
la
c'era
fiche.
Proprio un, come si dice, un manuale su come fare la campagna elettorale.
Su come fare la campagna elettorale.
Dans une petite valise?
Una petite valise.
Dans une petite valise,
ouais. Gli ho trovato un'idea molto carina, anche se un po' kitsch, devo dire.
Trovato che sia una buona idea, un po' kitsch, sì, un po' grottesca.
Però ha funzionato.
Le sa marché, quand même.
Allora noi avevamo i manifesti che a un certo punto negli ultimi 40-50 giorni erano vietati. Allora ci siamo inventati un sistema, il fotoromanzo, che saltasse il media e andasse direttamente sulla gente e raccontasse il punto di vista di Berlusconi.
Chi racconta il punto di vista di Berlusconi?
Non avevamo altra strada per parlare alla gente.
Non avevamo altro choix per parlare direttamente ai gens. C'est pour ça qu'on a inventé le roman photo.
E se vous en avez fait 12 millions?
No, 25 millions.
Questo non lo so, onestamente. Io mi sono occupato della parte concettuale. Poi non ho occupato
della concezione del roman photo,
non ho fatto nella parte grafica, nella parte dei contenuti, né tantomeno la distribuzione.
J'ai juste eu l'idée.
Berlusconi ou la démocratie pervertie, voilà, c'était un retour sur la façon dont Berlusconi a été fabriqué, à l'instant même, ou presque, enfin une heure après qu'on ait appris la libération provisoire de Cesare Battisti. Merci à tous, merci à Luigi Crespi de Data Media et à Alessandra, son assistante, merci à Francesco Giorgini pour son intervention tout à l'heure devant le palais de justice à Paris et pour ses traductions. Technique aujourd'hui, Michel Thomas et Antoine Viossa. Assistant Coy Nguyen, assistante Anne de Giaferi, le répondeur, le numéro, c'est le 01-56-40-37-37, 01-56-40-37-37. Je me prends pour Berlusconi avec cette musique derrière, je me vois avec mes belles dents blanches, tu vois, je vais faire une gaffe, je suis sûr, avant l'heure, je vais en sortir une grosse gaffe. Alors, demain, ça ne changera pas beaucoup, l'émission de demain, ce sera avec Julien Brune, pour un bouquin formidable qui sort sur tout ça, sur l'idéologie des médias, et de la pub à l'occasion de la comparution d'une soixantaine d'activistes anti-pub. Vous êtes au courant de cette histoire, la RATP, du moins la régie publicitaire de la RATP poursuit des anti-pubs qui passeront devant le tribunal dans les jours prochains, et donc Julien Brune nous parlera de tout ça demain. Je vous ai donné le numéro du répondeur, oui, 01 56 40 37 37. Qu'est-ce qui manque? Ah, les pubs.